A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va s'attaquer une fois de plus à un sacré morceau, une règle que j'ai eu un peu de la peine à comprendre. Disons que j'ai plein de questions que je me pose vis-à-vis de... Tu vois, j'aimerais bien une petite conversation avec Peterson, là, lui demander un peu ce qu'il pense de certains trucs, parce que, ben, on arrive sur un sujet qui... Un sujet un peu compliqué à saisir. Je vais vous dire ce que j'ai compris de cette règle et essayer de retransmettre au mieux le message de l'auteur, comme je le fais avec chaque règle. Au passage, vous m'avez dit que la règle précédente, l'épisode dure un peu plus de 10 minutes, que c'était court, mais il faut que vous dire un truc, tu vois, c'est que la règle numéro 6, elle fait 11 pages, tu vois, dans le livre. Donc 10 minutes pour 11 pages, ça fait quasiment une minute par page. Et la règle d'avant, tu vois, la règle numéro 5, j'ai fait un épisode de plus de 40 minutes, ce qui est plus long que la règle en elle-même. C'est-à-dire que dans sa version audio, quand c'est l'auteur qui lit la règle, il met pas autant de temps, tu vois, que moi, mon podcast. Donc, dites-moi pas que c'est court. Je fais de mon mieux pour essayer de vous dire des choses intéressantes à chaque seconde, tu vois, d'expression, histoire de pas vous faire perdre trop de temps. D'ailleurs, rangez votre chambre, c'est un peu le but de ce podcast aussi. Histoire que même si j'ai rien dit d'intéressant, bah, vous ayez au moins une chambre rangée une fois que c'est terminé. Donc, règle numéro 7, pursue what's meaningful, not what is expedient. La petite illustration, comme vous pouvez le voir, c'est une sculpture de Michel-Ange, sauf erreur. C'est la Vierge Marie qui tient la dépouille de son fils. Là, ce que vous allez entendre, c'est un mélange entre les idées de Peterson, les miennes qui sont influencées aussi d'ailleurs par beaucoup d'auteurs. Tu vois, les idées de Peterson comme si des idées appartenaient à quelqu'un. En réalité, Peterson est influencé par Nietzsche, par Carl Jung. Quand tu prends les différentes valeurs d'un individu, la valeur est que tu essayes de les hiérarchiser, donc tu essayes de trouver la valeur ultime, ce que l'individu considère comme étant le plus important pour Jung. Ça, c'est le dieu d'un individu donné. Il n'y a pas réellement d'athées, il y a seulement des personnes qui ne savent pas quel dieu elles servent. On a tous des valeurs sans même forcément en être conscient. Par exemple, quand on était des singes, on pouvait très bien tuer des autres singes, tu vois, et les autres singes, ils s'en battaient les couilles, tu vois, c'était le singe le plus fort, tu tuais juste les autres singes. On est arrivé avec les Grecs, où les Grecs, ils disaient, ok, on va t'accorder des droits si t'es un citoyen, c'est-à-dire que si tu fais partie de la cité, t'es protégé par la loi. Par contre, si tu fais pas partie de la cité, t'as plus de droits. Donc si tu te balades en dehors de la cité, tu peux te faire tuer, ça a posé problème à personne. Le temps passe, on arrive avec les Romains, et on arrive avec un mec, tu vois, qui s'appelle le Christ, Jésus, qui vient et qui fait « Ok, les mecs, à partir de maintenant, tu vois, on va passer à un niveau supérieur. Je suis le fils de Dieu, tout comme chacun d'entre vous. En chaque individu, il y a une petite parcelle de Dieu, ce qui veut dire que chaque vie a de la valeur. La vie des esclaves a de la valeur, donc c'est mal de posséder des esclaves. La vie des femmes a de la valeur, les handicapés, les enfants, les bébés, les fœtus, etc. Et c'est pour ça que du coup, on est tous, d'après le christianisme, placés sur un pied d'égalité. La religion a influencé le système légal de divinité de l'individu, vient souveraineté de l'individu, pardon, vient donc chaque individu a des droits, nanana, droits de l'homme, tout ça, tout ça. Du coup, tu estimes que tu peux choisir la personne que tu vas marier, tu estimes que tu peux choisir le travail que tu vas faire plus tard, etc., etc. De nouveau, dans des du monde, c'est tes parents qui décident qui tu vas marier, c'est tes parents qui décident ce que tu vas faire plus tard, et il n'y a pas toi qui as raison et eux qui ont tort, ni l'inverse en réalité, c'est deux réponses différentes au problème de la souffrance de la vie. Donc tu vois, genre on était des singes, on disait ok, c'est un peu chaud et tout la vie, il faut qu'on trouve des moyens pour faire en sorte que la vie se soit un peu moins chaud, et ben dans certaines régions du monde ils se disent, bah tu sais quoi, c'est les parents qui vont décider qui les enfants marient, parce que ça nous a évité plein de problèmes, parce qu'on se rend compte que les enfants ils sont un peu cons, ils vont marier des gens parce que ils se trouvent physiquement attirants, ils choisissent pas les bonnes personnes, et au final la société part en couille, donc on va faire en sorte que nous on décide, on impose la volonté sur les enfants. Cette solution appliquée, il se trouve que ça fonctionne, vu que les sociétés qui ont appliqué cette solution existent encore. Elle apporte des avantages, tout comme elle apporte des inconvénients. Nous, on a décidé de partir sur un autre modèle. Ça fonctionne aussi, c'est deux modèles qui sont différents qui fonctionnent. T'as certaines régions du monde où ils ont décidé de voiler les femmes. Pourquoi ? Parce que c'est une solution, une façon quelque part de protéger la femme du regard de l'homme. Et donc là, il y a plein de personnes qui disent « Ouais, on est athée, on trouve pas normal qu'on voile les femmes. » La raison pour laquelle tu trouves que c'est pas normal qu'on voile une femme, c'est pas parce que t'es athée, c'est justement parce que tu n'es pas athée. Bref, on va s'attaquer à la règle du coup. « Pursue what's meaningful, not what is expedient. » Suis ce qui a du sens et non pas ce qui est expédient. Expédient du coup, ce qui est opportun, ce qui est le plus simple dans l'instant. On parle de religion, évidemment, parce que c'est une question purement morale. La science et la religion ne répondent pas aux mêmes questions. Le fait que mes lunettes, elles aient certaines propriétés physiques, ça me dit pas si, oui ou non, je devrais mettre mes lunettes, tu vois. Et ça, c'est une question qui appartient au domaine de la morale. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de mettre mes lunettes? Bah, mec, en réalité, on sait pas trop, tu vois. Je vais voir un porte-monnaie avec de la thune dedans, tu vois. Je vais ramasser le porte-monnaie, tu vois. Je vois, il y a 200 euros. Il y a peut-être des cartes d'identité et tout. Je vois à qui elle appartient. Je prends les 200 euros, je laisse le porte-monnaie dans une poubelle ou je vais ramener le porte-monnaie peut-être à la police, mais je garde les 200 euros dans ma poche. Ce type de réponse, c'est les réponses expédientes. Un autre type de réponse, c'est quand tu te retrouves face à ce porte-monnaie-là, c'est de te dire, OK, il y a le porte-monnaie, il y a la thune dedans, quelqu'un l'a perdu, j'arrive à voir qui c'est, je vais retrouver la personne, je vais laisser la thune dedans et je vais apporter le porte-monnaie à la personne. Ça, c'est pas expédient. C'est pas ce qui est le plus opportun. C'est pas le premier truc qui te vient instinctivement en tête. Ta pulsion première, c'est de prendre la thune, de jeter le porte-monnaie à côté, tu vois. Mais nous, êtres humains, on a la capacité d'étendre un minimum notre conscience au-delà de nos instincts premiers, au-delà de nos pulsions. Alors, il y a très longtemps, on était des poissons. Tu vois, ensuite on est devenu, il y a certains poissons qui ont commencé à vivre peut-être un peu plus au bord de l'eau et de temps en temps pour manger, peut-être ils aimaient bien des petits fruits qui poussaient juste au bord de l'eau, donc ils ont commencé à un peu sortir de l'eau et ils ont commencé à avoir des petites nageoires qui les aidaient un peu à se pousser, tu vois, ils rampaient un peu sur les cailloux comme ça. Ensuite c'est devenu des espèces d'amphibiens, tu vois, ils avaient un peu des petites pattes et ils pouvaient un peu sortir. Et t'as certains poissons, tu vois, qui sont restés dans l'eau, mais t'en as d'autres qui aimaient vraiment ces fruits, tu vois, donc qui sortaient un petit peu de l'eau. Ensuite ces amphibiens, ben, c'est devenu des reptiles avec le temps parce que peut-être il y avait un truc encore plus intéressant à aller chercher un peu plus loin quand tu t'avançais dans les terres. Les reptiles sont devenus, sauf erreur, des mammifères. Ensuite, on est passé... c'est vraiment passé de reptiles à mammifères. Ouais, je crois, il me semble que... Ouais, des reptiles. Ensuite, ces reptiles, ils ont commencé à avoir des poils. On avait des espèces de petits trucs qui sont devenus ensuite des singes. On est passé de poissons à être humain. Et aujourd'hui, si je te dis on est en 2023, tu comprends ce que ça veut dire, tu vois. Tu dis, ouais, on est en 2023. Mais si tu penses que quand on était poissons, on était capable de dire, oh, on est en moins 2 millions. D'ailleurs, on ne se disait pas... on se serait pas dit, je pense, qu'on était en moins 2 millions. Aujourd'hui, si on dit qu'on est en 2023, c'est parce qu'on compte les années à partir du moment de la crucifixion. Tu vois, on est en 2023 après Jésus-Christ, donc après la crucifixion du Christ. Mais les mecs, du coup, quand ils étaient en moins 8, donc moins 8 pour nous, eux, ils étaient, je sais pas dans quel délire ils étaient, mais ils avaient quand même une certaine conception du temps. Ils étaient capables de se dire que, OK, il y a aujourd'hui, il y a demain, il y a le mois prochain. Ils étaient aussi déjà conscients des saisons. Les Égyptiens, sauf erreur, il y a moins 4000 ans, eux, ils étaient aussi capables, il y a moins 4000 ans. C'est 4000 ans avant Jésus-Christ, donc il y a 6000 ans. Si je me trompe pas. Bref, les Égyptiens, il y a très longtemps, étaient déjà conscients du temps, mais les poissons ne l'étaient pas. C'est-à-dire qu'avec le temps, on a commencé à développer une conscience et commencer à comprendre que, OK, je vis aujourd'hui, mais je vais aussi vivre demain, probablement la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Alors, on n'avait peut-être pas le concept d'année, mais on avait peut-être le concept de saison. Et on était capable d'étendre notre conscience au-delà de juste l'instant présent. Et en étendant notre conscience au-delà de l'instant présent, on est capable de voir les situations qui pourraient potentiellement survenir demain, la semaine prochaine, le mois prochain, et ainsi de suite. Et donc, si tu es capable de voir les potentiels, de visualiser un futur potentiel dans une semaine, tu es capable aussi de voir ce que tu pourrais faire maintenant pour augmenter la probabilité pour que ce futur potentiel existe ou alors n'existe pas. Si tu arrives à voir que peut-être la semaine prochaine, je vais me faire décapiter par ce mec-là, tu vois. Toi, tu peux aujourd'hui faire des trucs. Tu peux, au lieu de faire ta sieste, tu peux faire des ponts pour apprendre à te battre ou décider que tu vas construire un bateau pour te barrer de l'île, histoire d'éviter que cette situation se produise. C'est-à-dire que tu es capable de visualiser un futur et de faire maintenant des actions qui ne sont pas forcément les actions que tu aurais envie de faire, que tu ferais de base, histoire de pouvoir créer ce futur. On est passé du stade à j'ai mes pommes de terre, je mange absolument toutes les pommes de terre que j'ai maintenant. C'est le stade où on était des reptiles, par exemple, qu'on était des crocodiles. C'était pas des pommes de terre, mais c'était de la viande. Au stade où je peux garder un petit peu de viande et la manger demain. Au stade où je peux partager ma viande avec quelqu'un et peut-être que la semaine prochaine, il m'en donnera. Au stade où j'ai 50 pommes de terre, je vais en planter une. Et en fait, en plantant cette pomme de terre dans un mois ou deux mois ou trois mois, je sais pas combien de temps ça prend à pousser, tu vois, les pommes de terre, ben quand je vais tirer la plante, tu vois, j'aurai 5 pommes de terre. Les premiers singes qui ont commencé à se dire, tiens, je te file une banane et tout, et demain, tu me redonnes une banane, ils le font, mais ils pourraient pas dire, tu vois, ils sont pas capables de conceptualiser le truc comme je suis en train de te le faire maintenant. Tu vois, ils se disent pas, OK, c'est du sacrifice, on renonce à la gratification instantanée. Pour passer d'un poisson à un être de nouveau qui est capable de dire ça, bah, tu vois, il y a une certaine évolution de la conscience. Bref, tout ça pour dire que on n'était pas réellement conscient de ce qu'on faisait,
mais on le faisait quand même.
De là aussi est venue l'idée selon laquelle la vie, c'était une espèce de personnage avec lequel tu pouvais négocier. On a tendance un peu à tout personnifier, je cherche pas à comprendre, on fait ça, qu'on dessine un soleil dans un livre pour enfants, le soleil, il a des yeux, une bouche, il sourit, il parle, la lune, c'est pareil, le camion, il s'appelle Tom, et puis il se balade et il parle avec la grue qui s'appelle Tim, et ainsi de suite. On est des singes un peu bizarres, on fait ce genre de bail, tu vois, et à partir de là, quand on décide de représenter la vie, on se dit, mais en fait, c'est comme s'il y avait un espèce de personnage dans le ciel. Quand on fait un truc bien, il le note et il nous récompense dans le futur. Quand on fait un truc mal, il le note et il le récompense. C'est comme si en fait on négociait avec ce mec. Tu vois, on lui dit vas-y, aujourd'hui je te donne une patate. Dans un mois, tu me rends 5 patates. Donc ça fait 54 pommes de terre au total. Maintenant, si je peux décider de, au lieu d'en manger 49 et d'en planter une, je peux décider d'en manger 40 et d'en planter 10. Si j'en plante 10, bam, j'ai 50 nouvelles pommes de terre. Maintenant, j'en ai 40. Total, 90 pommes de terre. Petit sacrifice, petite récompense, gros sacrifice, grosse récompense. La question qui passionne notre civilisation, c'est quel est le plus grand sacrifice possible? Et là, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord. C'est le sacrifice de sa vie. Et le sacrifice de sa propre vie pour, du coup, quelque chose de plus grand. Mais du coup, quoi? Qu'est-ce qui est plus grand qu'en fait ta propre vie? Eh ben là, on arrive dans une question strictement religieuse. C'est quelque chose en réalité qu'on a représenté dans plein d'histoires, tu vois. Je peux vous citer des tonnes d'exemples, hein, genre dans Le Seigneur des Anneaux, t'as le moment où Boromir il se sacrifie pour sauver Frodon, ou tout à la fin du film, tu vois, quand ils se rassemblent tous au niveau de la Porte Noire pour attirer l'attention de Sauron et permettre à Frodon d'aller genre détruire l'anneau, ben ils savent qu'ils vont mourir, tu vois, ils sont à 1 contre 30, et pourtant, qu'est-ce qu'il fait Aragorn? Il dit genre pour Frodon, il charge l'ennemi alors qu'il sait qu'il va mourir, tu vois, c'est la fin, genre ils ont aucune chance de survivre, mais ils le font quand même. Dans Avengers, quand Iron Man il amène le missile, tu vois, genre en haut dans l'espace, il sacrifie sa vie. Pareil, dans Le Dernier Samouraï, le capitaine Nathan Hal Green, je sais plus quoi, tout à la fin, quand il rejoint le camp des samouraïs et il charge les Américains qui ont des mitrailleuses, si tu veux, et les mecs, ils les chargent au sabre, ils savent qu'ils vont mourir, mais il le fait de nouveau, ils sacrifient leur vie. Leonidas, dans 300, la même. Et l'exemple le plus parlant, un film, un super film, ceux qui l'ont pas vu, je vous le recommande fois mille, c'est Braveheart, donc avec Mel Gibson. C'est l'histoire d'un Écossais qui s'appelle William Wallace, qui vit dans un petit village, tu vois, et c'est l'époque où l'Angleterre, elle est en mode tyran, tu vois, ils tyrannisent les Écossais. En gros, ils ont des lois où ils chient littéralement sur les Écossais. Typiquement, quand deux Écossais, un Écossais et une Écossaise se marient, il y a un Anglais qui a le droit de venir et de violer la mariée, du coup, le jour de son mariage. Et un jour, ce mec, il tombe amoureux d'une fille, il décide de l'épouser, mais il l'épouse en secret. Les Anglais se rendent compte qu'il l'a épousé en secret, il bute la fille, le mec a un seum pas possible, donc il décide de rassembler tous les Écossais, et il les chauffe, il leur dit, les gars, venez, on va buter des Anglais, tu vois, il y a plusieurs scènes dans le film, où en gros, ils sont avant un combat, avant une bataille, et tous les Écossais, tu vois, ils sont désespérés, ils sont là, les mecs, genre, on est 400, tu vois, on n'a pas d'armes, les Anglais, ils ont une cavalerie lourde, si tu veux, ils ont, genre, ils sont bien équipés pour la baston, les Écossais, ils sont en infériorité numérique, ils ont, genre, des fourches et des trucs comme ça, et ils sont là, les gars, on se bat pas, tu vois, on refuse de se battre. Et William Wallace, tu vois, il les chauffe, il leur dit, les gars, c'est important de faire le sacrifice de votre vie maintenant, parce que vous vous sacrifiez pour quelque chose de plus grand, la mort, de toute façon, un jour, ça va venir. Donc, quelque part, il transcende la mort, il se bat pour quelque chose de plus grand qui lui ôte cette peur de mourir, il réussit à mener des bêtes de rébellion, si tu veux. Les Irlandais, à un moment donné, il décide de s'allier à lui et tout. Enfin, t'as des scènes, c'est un film de taré, je vous recommande ce film de ouf. Mais tout à la fin du film, le mec, je vous spoil à 100%, il finit par se faire capturer. Donc il se fait capturer par les Anglais, il se fait amener en prison. Et putain, est-ce que je me trompe ou il y a une princesse anglaise, je crois, qui est amoureuse de lui, qui vient le retrouver en prison et qui lui permet, je crois, elle lui permet de s'échapper. Ou là, je confonds peut-être avec l'histoire de Socrate, mais je crois qu'elle lui permet de s'échapper ou elle lui offre un poison, si tu veux, où il pourrait se suicider, parce qu'il va se faire torturer. Et le mec refuse, il se fait torturer, il est au milieu de la foule, tu vois, il y a tous les Anglais qui sont autour, toute la population anglaise qui le déteste. Et au fil de la torture, alors que donc t'as le bourreau et t'as le chef des Anglais lui dit, mec, t'as juste à dire pitié, et tout s'arrête. Si tu dis pitié, on s'arrête. Le mec refuse, tu vois. Et toute la foule qui le déteste, au bout d'un moment, tu vois, il commence à voir quand le bourreau, il prend un espèce de crochet et il commence à lui ouvrir le ventre lentement, si tu veux, il lui sort un peu des petites tripes, il lui sort des intestins, il le défonce. C'est une scène où vraiment, moi, je regardais la scène, tu vois, à l'époque, j'avais peut-être l'estomac retourné pendant que tu regardes ça, parce que c'est ultra violent. Enfin, tu vois pas réellement ce qui se passe, mais tu comprends, tu vois, à 100%, c'est très, les bruits qu'il fait, bref, c'est horrible. Et toute la foule, tu vois, ils s'arrêtent, tu vois, au bout d'un moment, ils arrêtent de le détester. Et à un moment donné, t'as une vieille qui fait pitié, tu vois, genre, elle dit pitié pour le mec, alors qu'il le déteste de base, tu vois. Et là, t'as toute la foule qui commence à répéter « pitié ». Et à un moment donné, si tu veux, le chef des Anglais, il demande à la foule de se taire, parce que toute la foule était là en mode « pitié, pitié ». Il demande à la foule de se taire, histoire qu'il puisse dire « pitié », parce qu'on l'entendrait pas, tu vois, s'il disait « pitié ». Et là, le mec, il hurle « liberté ».
Dans tous ces films, à chaque fois que le héros fait le sacrifice de sa vie, on frissonne. Ça nous fait quelque chose. On ressent, tu vois, à chaque fois que tu lâches des larmes, tu vois, rien que le fait d'en parler, tu sens qu'il y a un truc. Si tu fais ce qui est meaningful, tu peux même aller, du coup, recréer ce sentiment. Avoir des frissons parce que t'es en train de faire le truc correct, ça te place, en réalité, au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Et quand t'es parfaitement aligné là-dessus, tu ressens cette sensation de sens. C'est le moment où tu vas ressentir quelque chose, une sensation qui te fait, bah, qui, comme pour c'est le cas de William Wallace et de tous ces mecs dans la littérature ou dans le cinéma, qui te fait même perdre la peur de la mort. Tu t'élèves quelque part au-dessus de ta condition de mortel, ton niveau de conscience il part sur un truc supérieur, un peu comme quand t'écoutes un orchestre, tu vois, chaque instrument joue parfaitement bien, et en fait les instruments ils s'ajoutent les uns aux autres, donc t'as les trompettes, les basses, il y a tout qui vient ensemble, et qui crée genre une espèce d'énorme harmonie, et là tu peux ressentir des frissons, bah c'est le même délire, tu vois. Et à nouveau, tu vois, la raison pour laquelle cette règle elle est compliquée à expliquer, c'est parce que bah, j'essaie de mettre des mots sur des choses qui sont... qui sont compliqués à saisir, mais tout ce que moi je peux dire, c'est que, en tout cas, à titre personnel, et c'est peut-être aussi le cas pour vous, quand je vois des gens faire le sacrifice de leur vie pour quelque chose, pour un idéal, pour quelque chose de plus grand, et à nouveau, selon Carl Jung, ton idéal, le truc le plus grand, la valeur suprême de chaque individu, c'est justement ce qu'on appelle son Dieu, et à nouveau, on est dans des sociétés judéo-chrétiennes, qu'on le veuille ou non, on a ces valeurs-là au fond de nous, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec 100% des trucs, ça veut pas dire à nouveau qu'on est d'accord avec l'aspect dogmatique ou qu'on le comprend, et ainsi de suite, mais le message de la règle, pursue what's meaningful, not what is expedient, c'est un truc du style, si tu fais le truc qui est le expédient, qui est le plus pratique là maintenant dans l'instant, bah ok, tu réduis la souffrance dans l'instant, tu permets d'apporter une réponse à la souffrance, à l'anxiété, à la tragédie de la vie, là maintenant tout de suite, mais ça fonctionne pas pour le futur, tu vois, c'est une solution court terme, alors que si tu suis ce que te dit ta conscience, comme Socrate l'a fait. Socrate, du coup, qui était accusé de corrompre la jeunesse, tu vois, qui se fait envoyer en prison et qui a le choix de s'échapper de prison ou qui pourrait, en fait, éviter sa sentence. Il décide, en fait, non, ok, je vais juste mourir pour mon idéal parce qu'il écoute sa conscience et sa conscience lui dit, non, fuis pas la prison, t'as rien fait de mal, tu restes ici, tu vas mourir comme un homme. Quand t'écoutes ta conscience quelque part, ça file un sens à ta vie tellement grand, du coup, que ça t'enlève la peur de la mort. Et en gros, c'est un peu ce qui est, c'est ce que j'ai essayé, maladroitement, de vous transmettre via cette règle. C'était compliqué. Je vous souhaite une excellente fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour parler de la vérité. Et encore une fois, je vous encourage à me laisser un pouce, like ou un commentaire si c'est un épisode qui vous a plu. À la semaine prochaine.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.